Gloire à Dieu, merci Père éternel de nous conduire par ton esprit dans toute la vérité. Nous nous attendons à toi, nous prions Seigneur que tu nous parles et que ta parole nous transforme à ton image de gloire en gloire. Amen. Nous lisons dans le livre de Juges. Voilà, nous lisons dans le livre de Juges, au chapitre 13. Juges, chapitre 13. Nous allons parler de la permanence et de la gloire de l'Église. Il est écrit ceci, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. » Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Et nous lisons au verset 23. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit. Et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané et Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Verset chapitre 14. Samson descendit à Timna et y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Nous allons au chapitre 15. Au verset 15, pardon. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. » C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, et il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Quelque temps après, chapitre 15, l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis, il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha le renard dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher de Tan. Et la suite du chapitre 15 nous montre que Samson a encore tué 1000 Philistins. Donc finalement, Samson était en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait suscité. Dieu l'avait suscité pour libérer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Et il était en train d'accomplir cette mission. Donc il y a eu 30 tués, puis un certain nombre, puis 1000. Et nous lisons la suite au chapitre 16. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delila cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Nous nous arrêtons là. Les Philistins se saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Et notre sous-titre d'aujourd'hui, c'est le verset 22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors, Samson a été suscité pour libérer les enfants d'Israël des Philistins. Et il a bien commencé. Et il tuait, il défendait Israël. Il a utilisé des renards. Il a, avec sa force, enlevé les portes de ville, c'est des immenses constructions. Et lui, il a pu les porter avec ses bras. Il était doté, doué d'une force extraordinaire parce que le Saint-Esprit était en lui depuis le ventre de sa mère. Et quand l'Esprit le remplissait de sa puissance, il pouvait à lui tout seul tuer 1000 personnes. Il était invincible physiquement, Samson. Et Dieu lui avait donné cette force pour détruire les œuvres des Philistins, afin que Israël soit libre, parce qu'Israël souffrait, cela faisait 40 ans. Vous savez, la vie de Samson, c'est comparable à la vie de l'Église visible de Dieu. Avant Jésus, les choses comme les esprits mauvais, c'était des choses qui restaient loin de la portée des hommes. Donc quand on était possédé par un esprit mauvais, notre cas devenait impossible à régler. quand on était aveugle, notre cas était impossible à régler. Les prostituées, leur cas était impossible à régler. Et nous, les païens, c'est-à-dire les non-juifs, notre cas était impossible à régler. Nous étions perdus avec des faux dieux. Nous prions des ancêtres, nous prions le soleil, la lune, les étoiles. Il est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Jésus est venu dans le monde comme la lumière du monde. Il nous a ouvert les yeux. Nous avons compris que nous pouvons avoir le dessus sur les mauvais esprits au nom de Jésus. Nous avons compris que tout était possible désormais à celui qui croyait. Nous avons compris que même si on est prostitué, Dieu nous pardonnait si on venait à se repentir pour commencer une nouvelle vie. Nous avions compris que ce monde est de passage et que nous pouvons aller au ciel si nous croyons en Jésus. Jésus nous a montré c'est quoi la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Non seulement ça, il nous a donné la supériorité sur le monde. Les gens sont esclaves de l'argent. Le Seigneur nous a donné la paix qui dépasse l'argent. Les gens sont esclaves des plaisirs de ce monde. Le Seigneur nous a donné sa puissance qui dépasse la puissance des plaisirs de ce monde. Nous sommes vraiment libres. Jésus est venu libérer les captifs. On se souvient de Zachée qui était collecteur d'impôts, qui avait une mauvaise vie, esclave de l'argent. Jésus l'a sauvé. Il est devenu un homme nouveau. Il a pris tous ses biens, il a donné aux pauvres. On se souvient de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On voulait la lapider. Jésus-Christ est venu la sauver. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Sa vie a changé, la vie de cette femme a changé. On se souvient de la fille de Jaïrus qui était morte, qui était encore malade. Et Jaïrus est parti voir Jésus pour dire, mais ma fille est malade, viens la guérir. Et en allant vers la fille, vers la maison de Jaïrus, on vient dire à Jaïrus, c'est pas la peine, elle est morte maintenant. Jésus a dit à Jaïrus, crois seulement. Jésus a amené le rafraîchissement sur la terre. Il a amené la délivrance sur la terre. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, c'est-à-dire la confession de foi que tu fais que je suis le Fils de Dieu, je vais bâtir mon église. Mon église va faire le travail maintenant. Et nous avons vu Jésus dire aux apôtres, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et les apôtres ont attendu 10 jours à Jérusalem. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, et ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle partout, en disant aux hommes, vous avez un problème, nous avons un problème, un principe qu'on appelle le péché, qui est en nous, qui nous détruit, qui crée les divorces, qui crée les séparations, qui crée les tueries, les assassinats. Mais Jésus a vaincu ce principe. Si vous croyez en Jésus, votre vie change, vous commencez une nouvelle vie. Les ténèbres s'éloignent. Je suis venu libérer les captifs, a dit Jésus dans Luc au chapitre 4. Et c'est ce que les apôtres prêchaient. Des gens ressuscités des morts, des gens étaient guéris. Il y en a qui changeaient de vie. Mais l'Église a été séduite par le monde. Samson, on l'a envoyé en guerre contre les Philistins. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par être séduit par les filles des Philistins. C'est ce qui s'est passé pour l'Église. L'Église est envoyée en guerre contre le monde, en guerre contre les forces des ténèbres, en guerre contre l'argent. Finalement, l'Église a été attirée par le pouvoir du monde, par l'argent. Et à partir de là, l'ennemi a affaibli, je dis bien l'Église visible. Quand Samson, c'était un homme visible, eh bien, cet homme-là visible a été affaibli. Il a fini par donner son secret. Son secret, c'était quoi? C'était les cheveux qui ne devaient être jamais coupés. Samson était ce qu'on appelle un Naziréen. Dans Nombre, au chapitre 6, on parle du Naziréa. Ça veut dire que le Seigneur avait établi, l'Éternel avait établi un principe, ce qu'on appelle le Naziréa. Un homme pouvait entrer dans le Naziréa. Le Naziréa, c'est le symbole de se consacrer totalement à Dieu. Donc quand quelqu'un signait un vœu de Naziréa, donc il pouvait décider pendant un an, 6 mois, 3 mois de s'isoler, de ne plus se coiffer, les cheveux poussés, de ne pas toucher au vin et de rester seul que pour Dieu. C'est ce qu'on appelait le vœu de Naziréa. Et Samson était un Naziréen. Donc, il avait un contrat avec Dieu de laisser les cheveux pousser. Il était mis à part pour Dieu. Et il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Cette phrase-là, on le dit seulement de Jean-Baptiste. Dès le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Et Samson était pareil, consacré à Dieu. On se souvient aussi de la vie de Jean-Baptiste, qui était une vie consacrée à Dieu dans les déserts, avec une peau d'animaux sur lui, et mangeant le miel et les sauterelles, consacré à Dieu. Samson était aussi un Naziréen, consacré à Dieu par ses cheveux. Il ne fallait pas que ses cheveux soient touchés, soient rasés. Et les chrétiens sont aussi des Naziréens. C'est des gens consacrés à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on les appelle saints. Saint, ça veut dire, ça ne veut pas dire celui qui est parfait. Saint, ça veut dire celui qui est consacré à Dieu. Il est mis à part pour Dieu. Il vit que pour Dieu. Il est à Dieu. C'est ça que ça veut dire saint. Et Samson a fini par donner son secret. C'était qu'il était saint, il était consacré à Dieu par ses cheveux qui ne devaient être jamais rasés. Et les chrétiens ont fini par dire au diable, par dire au monde, voilà, notre puissance, notre force vient du fait que nous vivons que pour Dieu. Et le monde a trouvé le moyen de distraire les chrétiens et de les raser. Et dire, mais non, ça c'est être comme une secte. Vous devez vivre aussi pour les choses de la terre. Nous sommes sur la terre. Un peu de mélange ne fera pas de mal. Beaucoup de mouvements sont nés dans la vérité. Comme le mouvement des apôtres, le jour de la Pentecôte, c'était dans la vérité. Mais un siècle après, 2 siècles après, les chrétiens qui ont résisté à toutes sortes de persécutions, on les a tués, on les a frappés, ils ont résisté. Ils n'ont pas pu résister à la séduction. Samson était costaud physiquement, il résistait aux hommes, il résistait à toute forme d'attaque physique. Il a tué un lion sans problème. Mais il a cédé face à la séduction de Delila. Et les chrétiens ont cédé face à la séduction. Il y a un certain Constantin, parce que les chrétiens commençaient à devenir nombreux. Même s'ils étaient persécutés, ils étaient nombreux. Ils avaient quand même une puissance numérique. Et Constantin a voulu se servir des chrétiens. Il a dit que lui aussi, il était devenu chrétien. C'était l'empereur. Il voulait devenir empereur. Il dit qu'il est devenu aussi chrétien. Et il a commencé à aider les chrétiens. Et les chrétiens ont collaboré maintenant avec le pouvoir en place. Ils ont eu un pouvoir humain. Or, Jésus avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais les chrétiens ont décidé d'avoir le pouvoir humain. C'est ce qu'a produit ce qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme, la mère de toutes les abominations. C'est lié au fait que le pouvoir humain a été donné aux chrétiens, aux chefs des chrétiens de l'époque. Ils sont devenus les amis de l'empereur. Ils ont commencé à décider sur la politique du pays, de l'Empire romain. Et c'est comme ça que le christianisme a subi son premier plus grand échec qui nous a conduit à ce que les historiens appellent 1000 ans de ténèbres avec le catholicisme. Mais on en a déjà parlé, on en reparlera encore, mais aujourd'hui le sujet c'est l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ont expérimenté une vraie conversion, un vrai réveil. Certains mouvements l'ont expérimenté, mais après ils finissent comme Samson par être séduits, par le mélange, par le refus de vivre que pour Dieu. Il y a des mouvements qui étaient bons, mais après ces mouvements-là veulent vivre pour eux-mêmes, être des mouvements forts et bons, éternellement. Ils ne vivent plus pour Jésus, mais ils veulent protéger le mouvement, qu'on continue à parler du mouvement. Et on fait des règlements intérieurs, comme le monde fait des règlements intérieurs, pour faire que le mouvement soit toujours le même partout. Donc on veut que s'il y a une église, j'appellerai par exemple église Victoire. À Rouen, il faut qu'il y ait une église Victoire. En Allemagne, et avec les mêmes caractéristiques que l'église Victoire d'ici, ce n'est plus Jésus qu'on suit, mais on veut répéter la même église partout. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit qu'on répète le même mouvement, le même groupe partout. Et l'homme, dans un esprit de contrôle, a voulu répéter le même groupe partout, la même chose partout. Ça a créé l'administration spirituelle et qui a tout détruit. Satan a réussi à voir les chrétiens. Ils ne travaillent plus pour la Bible, ils ne travaillent plus pour Jésus, ils travaillent maintenant pour leur administration, l'administration de leur mouvement. L'argent, bien-aimé, est-ce que nous ne sommes pas censés être l'ennemi de l'argent? Jésus a dit, on ne peut servir deux maîtres. Ou on sert Dieu, ou on sert l'argent. Les faux serviteurs de Dieu ont dit, mais non, mais c'est écrit, l'argent répond à tout. Sans argent, on ne peut rien faire. Où est-ce que c'est écrit que sans argent, on ne peut rien faire? C'est faux. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Et les chrétiens ont accepté que les choses de Dieu soient monnayées financièrement. On vend des livres, on vend des CD, on vend des concerts, il faut payer pour entrer dans un concert chrétien, il faut payer pour assister à une conférence chrétienne, il faut payer pour recevoir une formation chrétienne. Où est-ce qu'on a vu les apôtres payer pour écouter Jésus? Où est-ce qu'on a vu Timothée payer pour écouter Paul? Il est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 20, Paul avait prêché toute une nuit. Est-ce qu'on l'a payé quand il prêchait toute une nuit? Et quand on parle, les gens disent, mais oui, mais sans argent, on ne peut pas acheter les gens qui produisent les CD, ils vont les produire comment? Les gens qui produisent les livres, ils vont les produire comment? Les gens qui produisent, qui louent les salles pour faire des concerts, ils vont les louer comment sans argent? Mais la question, c'est qui les a envoyés? Lisez Luc au chapitre 10. Quand Jésus-Christ envoie ses disciples, il dit, ne prenez pas de l'argent. Et dans Luc au chapitre 22, quand il revient, il a dit, quand je vous avais envoyé, quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit, non, on a manqué de rien. Donc si Dieu t'envoie, il te donnera ce qu'il faut. Ce n'est pas à nous de demander de l'argent aux autres. Là, les gens que nous sommes censés servir, nous allons encore leur demander l'argent. Les gens disent, oh non, pasteur, toi tu es dans les nuages. Il faut être sur terre. Mais c'est ça qui s'est passé pour Samson. Il a voulu être sur terre, collaborer avec la terre. Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du ciel. Nous sommes ici dans ce monde en mission. Et les gens disent, non, il faut quand même être raisonnable. On est sur terre. L'argent est nécessaire, mais qui a dit que l'argent n'était pas important? L'argent est important, mais Dieu est plus grand que l'argent. Et Dieu ne nous a pas demandé de pactiser avec l'argent. Aujourd'hui, quand on arrive dans les excès, les gens s'étonnent qu'on arrive dans les excès. Mais les excès commencent par de petites choses. Les excès ne viennent pas tout seuls. Pour que tu fasses un excès de table, il faut avoir commencé à manger une petite quantité. Tu ne peux pas avoir arrivé à un excès de table si tu n'as pas mangé de petites quantités. Les excès dont on se plaint aujourd'hui sont dus à une petite déviation que les Américains surtout ont amenée par rapport à l'argent. Aux États-Unis, ils ont pris leur amour pour l'argent, ils ont mis ça dans l'église et ils ont répandu ça dans le monde entier. Aujourd'hui, quand on voit des excès, des gens demandaient l'argent avant qu'ils prient pour vous, on dit, mais c'est exagéré, mais oui, mais tout a commencé par le fait de monnayer les enseignements, de monnayer les chansons. Tout a commencé là. Samson, on lui a crevé les yeux. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont les yeux crevés. On lui a crevé les yeux. Même des chrétiens qui sont dépouillés. Quand on leur parle de la vérité, c'est eux qui défendent ceux qui les dépouillent. Les yeux sont crevés. Comme c'est écrit dans Ésaïe 59, la vérité a disparu dans les rues. Ils préfèrent payer, ainsi continuer leur vie de péché, plutôt que ne pas payer et être obligés d'obéir à la parole de Dieu. Il y a pacte entre les chrétiens et le monde. C'est ce qui conduit à la déchéance. On pleure à gauche, à droite. Nous avons donné deux prédications sur le psaume 137. Le psaume 137 parle des juifs qui sont en Babylone, en captivité, qui sont en train de dire, mais on nous demande de chanter le chant de Sion, d'Israël ici. Nous refusons. Ils ont pris leur harpe, ils ont suspendu sur le sol. Ils ont dit, on ne peut pas jouer la musique de Sion dans un pays étranger. Il faut qu'on retourne à Jérusalem. Et on avait expliqué que ces juifs-là refusaient le compromis. Mais ils n'étaient pas seuls, ces juifs-là. Il y en avait d'autres qui avaient accepté le compromis de chanter la musique de Sion à Babylone. Et c'est à cause de ça qu'a été créé le Talmud, c'est-à-dire des livres spirituels juifs. Il y a le Talmud de Babylone. Ça a été créé à ces époques-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le judaïsme a refusé Jésus. Puisque à partir de Babylone, ils ont créé d'autres livres et qu'ils ont commencé à suivre. Les chrétiens aujourd'hui acceptent de mélanger. Ils acceptent de mélanger en se disant, on est sur terre. Ils acceptent de mélanger parce que ça les arrange, ça arrange leur chair. Et Samson, malgré sa mission d'attaquer les Philistins, il a accepté de mélanger, de prendre des filles de Philistins. Même si au début ça pouvait être une stratégie de Dieu, lui, il a fait de la stratégie du début, il en a fait une règle. Certains, un jour, ils ont expérimenté un miracle. Ils en font après une règle. Donc ça doit se passer tout le temps comme ça. Ils créent des règles. Et ils quittent la foi et la vérité biblique où dans laquelle Dieu est libre de faire ce qu'il veut à tout moment. C'est comme ça que l'Église s'est corrompue petit à petit. J'ai appris même récemment dans une région d'Amérique, en plein culte, le pasteur fait son entrée, on éteint bien les lumières, il fait son entrée avec le costume de James Bond et avec des lunettes noires. Et on met aussi la musique de James Bond en entrant. Et commence à dire, où sont les agents 0012? Parce que sa doctrine, c'est qu'il faut que chacun convertisse 12 personnes. Comme ça, on va devenir nombreux. Donc c'est le nombre qui compte et non pas la vérité. Et ils appellent ça le G12. Chacun doit convertir 12, 12, 12, comme ça l'église va se multiplier. Et donc lui, il devient le chef des agents 0012. et la musique de James Bond. Et quand dit, où sont les agents 0012? La foule applaudit, bien aimé. Les yeux sont crevés. Les yeux sont crevés. Les gens voient le même cinéma tous les jours. On leur dit, celui qui a une jambe plus courte que l'autre qui passe devant va faire les miracles. Bien aimé, qui a... Je n'ai jamais vu dans ces miracles-là des jambes plus courtes, quelqu'un qui a un mètre pour mesurer. Donc, le ruban là qu'utilise les couturiers pour dire, bon, c'était 110 cm, ou bien c'était 80 cm, maintenant c'est 78 cm. Non, c'est le pasteur qui convainc tout le monde que les jambes sont devenues pareilles. Mais bien aimé, pourquoi ne pas faire des miracles visibles clairement une fois pour toutes, un aveugle voit. Et on fait des miracles jambes plus courtes que l'autre. Qui peut vérifier ça? Et les gens sont là à regarder les mêmes scènes. On souffle, les gens tombent. Mais ils tombent pourquoi? Ça change quoi? Les gens sont là à s'émerveiller des mêmes scènes. On dit aux gens, pour être béni, il faut donner l'argent aux serviteurs de Dieu. Ils se font dépouiller. Et ils défendent ces serviteurs-là parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Dieu leur demande leur cœur. Comme ils ne veulent pas donner leur cœur à Dieu, ils préfèrent donner l'argent aux hommes. Comme ça, ils sont libres d'utiliser leur cœur comme ils veulent, comme ils entendent. L'Église souffre. Les gens souffrent. Les païens deviennent même plus intelligents que les gens qui vont dans les églises. Et beaucoup de païens ne veulent plus se convertir parce qu'ils ont l'impression que entrer dans une église, c'est devenir encore plus mauvais que quand on est païen. Parce que les yeux sont crevés. Et beaucoup de gens sont tristes. Et beaucoup de chrétiens, vous savez pourquoi ils font le mal? Parce qu'ils se disent, on n'a pas le choix. Tout le monde sombre dans le péché. Et il y en a qui sont là, qui sont là dès qu'ils trouvent quelqu'un de vérité. Ils attendent le jour où il va tomber. Parce qu'ils sont tellement habitués à voir les gens tomber qu'ils attendent que tout le monde tombe. Les gens n'ont plus même l'espoir qu'on peut avoir des Paul, des Pierre, des gens qui ne vont pas tomber jusqu'au bout, des Timothée. Donc quand ils te trouvent, tu prêches la vérité, ils attendent le jour où tu vas tomber, c'est tout. Parce que les gens ont perdu espoir. Et certains qui devaient suivre rapidement pour devenir des serviteurs de Dieu, ils ne suivent pas les vrais serviteurs parce qu'ils attendent le jour où ils vont tomber. Au lieu de suivre et puis de faire le boulot du Seigneur, est-ce que si Timothée commençait à se dire, Paul elle va tomber, je dois être prudent, mais prudent, tu n'avances pas. Quand la vérité est là, il faut avancer. Mais non, les gens sont dans les découragements. Ils attendent que tout le monde tombe. Donc tu t'attends toi-même aussi à tomber. Finalement. Et c'est ça l'état de l'Église aujourd'hui. Tout le monde est dans le découragement. Parce qu'on est dépassé par le nombre de chutes. On est dépassé par les escroqueries. Les yeux sont crevés, les gens ne voient plus la vérité. Les gens ne voient plus la réalité. Bien-aimés, j'ai appris des nouvelles la semaine passée, il y a deux semaines, sur des chrétiens qui ont fait des chants magnifiques. Des gens que nous avons suivis, écoutés. Aujourd'hui, qui sont dans le compromis avec le catholicisme. Et aujourd'hui, qui sont dans le compromis à cause du nombre. Ils veulent le nombre. On voit des pasteurs qui passent sur Internet. Tout le monde les suit sur Internet. Mais qui font des séminaires avec des prêtres catholiques sous prétexte que ces prêtres auraient l'onction. Jésus a dit, il faut suivre la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais les féticheurs ont aussi l'onction. Michael Jackson avait l'onction. Mais c'est des onctions démoniaques. On ne suit pas les gens parce qu'ils auraient une puissance. On suit les gens parce qu'ils disent la vérité. Ils disent la même chose que Jésus-Christ. Et pour certains, les églises sont devenues des entreprises. Or, quand les Paul allaient de ville en ville prêcher, il ne disait pas quand il arrivait dans une ville, je vais ouvrir une autre église victoire ici. Non. Il venait prêcher Jésus-Christ. On dit dans Actes des Apôtres au chapitre 8, Philippe arriva à Samarie et il prêcha Christ. On ne dit pas qu'il était parti ouvrir une autre église, Jérusalem, là-bas. Il est parti prêcher Jésus-Christ. Les églises sont devenues des entreprises avec des filiales, des succursales, où on ouvre à gauche, à droite, comme si c'était le bien personnel d'une personne, d'un homme. Aujourd'hui, on n'appelle plus, les pasteurs ne sont plus des pasteurs, mais on les appelle père, papa. C'est vrai que dans certains pays, on appelle souvent les hommes papa avant de citer leur nom. Mais même dans ces pays-là, il y a 20 ans, quand nous on était païens, on n'appelait pas les pasteurs papa, on les appelait pasteurs. Aujourd'hui, le verset que les évangéliques ont utilisé souvent pour attaquer le catholicisme, Matthieu 23, 9, n'appelait personne père. Eux-mêmes, ils font cela. Maintenant, dans les pays francophones, pour atténuer le choc, ils appellent carrément daddy. Alors qu'on est dans un pays francophone, vous appelez les gens daddy, papa en anglais. Ça atténue les faits. Comme ça, les gens ne vont pas remarquer que c'est interdit dans la Bible, dans Matthieu 23, 9. Et les gens sont à l'aise. Vous savez pourquoi ils sont à l'aise? Parce que c'est des mouvements qui élèvent la chair, qui font du bien à la chair. On te prophétise que tu es un grand. Tu vas faire des grandes choses. Tu es bien comme ça dans ton péché avec Dieu. Tu es bien, Dieu t'accepte. Non, ce n'est pas la vérité. Et les yeux des gens sont crevés comme les gens de Ninive qui ne savaient plus reconnaître leur gauche de leur droite. Les juifs du psaume 137, ils ont dit, nous refusons de céder. Nous allons louer l'Éternel à Sion, à Jérusalem. Samson, c'est l'Église. Alors qu'il était loin, il a commencé à pactiser avec ses ennemis. L'Église a qui comme ennemi? C'est l'argent, l'ennemi de l'Église. Jésus-Christ a fouetté les gens qui avaient transformé le temple en marché. Il les a fouettés. Mais aujourd'hui, de quoi on parle le plus dans les réunions évangéliques? De l'argent. Un jour, j'ai vu sur Internet un pasteur qui disait que lui, il a atteint son million déjà. Son million de francs CFA. Son milliard ou million de francs CFA. Je crois que ça dit milliard. Il y a un autre qui dit, j'ai maintenant beaucoup de maisons. Mes rêves se sont accomplis, bien aimés. Est-ce que le rêve de Paul, c'était d'avoir beaucoup de maisons? Le rêve de Jésus, c'était d'avoir beaucoup de maisons? Le rêve de Paul, de Jésus, c'était de voir l'humanité sauvée et aller au ciel. Et les gens entendent ces discours parce que dans leur tête, c'est comme nous quand on était petits, quand on regardait Fernandel, l'homme à la bouique, on espérait que quand il a fait le braquage, là, le casse, qu'on ne l'attrape pas. Parce que quand tu regardes le film, tu t'imagines toi aussi voler, mais tu ne veux pas qu'on t'attrape. Alors les gens, quand ils entendent des mauvais discours comme ça, ils se disent, moi aussi j'aimerais t'envoyer 4 maisons comme ce pasteur-là, 5 maisons. Et ils considèrent la prédication comme bonne, parce qu'il se met à la place du voleur qui prêche là. Et nous, quand on était jeunes, on regardait le film, quand il y avait un casse, on ne voulait pas qu'on attrape le voleur. Tu regardes le film et tu ne souhaites pas qu'on attrape le voleur, mais les films sont faits pour qu'on attrape le voleur toujours. Et on est déçu à la fin, le voleur est attrapé. Parce que tu te figures, toi ce voleur-là, tu fais un petit casse à la place Vendôme de 10 millions, tu fuis aux Bahamas tranquillement pendant toute ta vie. Mais même le monde nous montre qu'on finit toujours par les attraper, ces voleurs-là. Et les gens écoutent ces faux discours parce qu'ils s'imaginent être à la place de la personne qui prêche. Ah, moi aussi, j'aurai l'argent. Moi aussi, voilà. C'est des choses qui plaisent à la chair. Et il y a destruction. Destruction. Destruction dans l'Église du Seigneur. Il y en a qui sont dans la logique égoïste de leur mouvement. Ils vivent pour leur mouvement, ils font tout pour leur mouvement. Il y en a qui sont dans l'argent. Quels sont les ennemis du Seigneur, bien-aimés? Les ennemis de l'Église, c'est la recherche du pouvoir humain. Mais aujourd'hui, on prêche aux gens que vous devez être des politiciens, des présidents. Vous devez prendre le pouvoir humain sur la terre. Alors que Jésus a dit, mon royaume est du ciel. Et les chrétiens sont contents parce que ça favorise leur chair. Leurs yeux sont crevés. Les ennemis de l'Église, c'est quoi? C'est les ennemis de Jésus. Quand on a tenté Jésus, une des tentations, c'était quoi? C'était qu'il saute. Qu'il saute du haut du pinacle du temple, comme ça les anges vont le transporter. Ça va créer quoi? La popularité. Aujourd'hui, les gens, c'est toujours le mot dans leur bouche. Mon ministère, mon ministère, mon ministère. Ils ont des ambitions personnelles. Ils veulent être populaires. Ceux qui chantent veulent faire des CD pour être connus. Ceux qui prêchent veulent être connus, être invités, être reconnus, être applaudis, être acceptés. Jésus ne nous a pas demandé d'être acceptés. Il a même dit que ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. 2 Timothée 3:12. On cherche la popularité. Pourquoi chercher la popularité? La gloire appartient à Dieu seul. Mais aujourd'hui, les discours qui circulent dans les milieux évangéliques, c'est toujours ça, popularité. Popularité. Voilà frère, je vois que tu vas être un grand prophète, tu vas prêcher devant les foules. Voilà les prophéties qui circulent. Mais cherchez dans la Bible de telles prophéties, il n'y en a pas. Dans la Bible, on dit à Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture, il t'amènera où tu ne voudras pas. On dit à Paul, je l'apprendrai à souffrir pour mon nom. Voilà les prophéties qui sortent. Et à Gabus, il prophétise sur Paul. Il dit que quand tu arriveras à Jérusalem, tu seras arrêté. Mais aujourd'hui, c'est des prophéties d'élévation humaine. Et les gens sont contents, les yeux sont crevés. Ils sont en train de servir leurs ennemis. Comme Samson, les yeux étaient crevés, il a commencé à tourner la meule, à servir ses ennemis. Samson a été suscité pour attaquer les Philistins, maintenant il commence à les servir. Les yeux sont crevés, il commence à les servir. Parce qu'il a voulu les choses de la chair. Bien-aimé, le chrétien, c'est celui qui est consacré à Dieu. 100% pour Jésus. C'est ça qui fait sa puissance. C'est ça qui fait que la gloire de Dieu vient sur lui. Ce n'est pas celui qui mélange. Et les ennemis de l'Église, c'est quoi? C'est les ennemis de Jésus. Quand Jésus a été tenté, on a dit transforme ses pains en chair, plutôt ses pierres en pain. Et aujourd'hui, les églises sont devenues les endroits où on veut amener les gens à marcher selon la chair. On crée des boîtes de nuit chrétiennes. On crée des rap chrétiens, le rock chrétien. Donc tout ce qui plaît à la chair, on en crée des chrétiens. Les pasteurs sont devenus des sexologues. Les pasteurs sont devenus des cuisiniers. Ils expliquent comment faire la cuisine en prêchant. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a même des églises où les recettes sont vendues. Donc il y a un livre de recettes qui est vendu. Il y a des églises où on va l'aloe vera après la fin du culte. Pour la peau. Or Jésus dit, vaut mieux entrer estropié au ciel. Donc tu entres avec une seule jambe. Mais dès que tu entres au ciel, la jambe revient. Mais qu'entrer en bonne santé en enfer. Vous voyez les coqs, les bons coqs, là j'ai oublié leur nom, qu'on élève là, ils sont costauds. Mais à quoi ça sert d'être costaud comme ça pour finir dans la marmite? Et dans ces églises-là, l'aloe vera, on vend les trucs pour les cheveux. On conseille aux femmes d'être comme les femmes du monde. On ne dit pas que les femmes doivent être sales, mais on n'a pas à conseiller aux gens de ressembler aux gens du monde. L'église n'est pas un salon de coiffure. On n'est pas contre les coiffures, Mais nous devons nous attacher à Dieu et l'Esprit nous amènera à nous coiffer. Mais nous, on nous enseigne le contraire. On nous dit, si tu t'attaches aux choses de la terre, c'est là que tu es en accord avec Dieu. Or, les choses de la terre sont ennemies de Dieu, c'est ce qui est écrit. Celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. C'est écrit dans 1 Jean 2, 15 à 16. Bien-aimé, n'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. C'est écrit, bien-aimé. On dit à Jésus, transforme ces pierres en pain, satisfais ta chair. Nous nous disons, crois en Jésus et tu auras la gloire de Dieu. Les yeux de Samson étaient crevés, en train de tourner la meule, en train de servir ses ennemis. Et aujourd'hui, les chrétiens servent leurs ennemis. Ils servent l'argent. Les chrétiens s'inquiètent pour l'argent. Ils s'inquiètent pour leur compte bancaire. Ils s'inquiètent pour leur salaire. Ils s'inquiètent pour tout. Tout ce qui est financier, tout ce qui est humain, ils s'inquiètent pour ça. Oh, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Les chrétiens sont en train de servir leurs ennemis. Ils veulent être les premiers. Côté mode vestimentaire, ils veulent être les premiers. Côté apparence, ils veulent être les premiers. En classe, les premiers partout. Donc dans tout ce que le monde fait, le chrétien veut être le premier. Et il oublie d'être le premier avec Dieu. C'est pour cela qu'il a été suscité. Pour être la gloire de Dieu, la lumière du monde. Maintenant, lui, il veut être la gloire de la terre. Et quand on prêche comme ça, on dit on est extrémiste. Non, on est dans la vérité. C'est la vérité. Les yeux sont crevés. Les choses ont été transformées, retournées. Dieu veut nous donner la richesse, il veut nous donner tout ça. Mais il dit d'abord, cherchez le royaume de Dieu. Et vous aurez tout, vous aurez la beauté, vous aurez tout. Il dit que Salomon était habillé plus que vous tous qui êtes là. Et ça venait de qui? Ça ne venait pas de Dieu. C'est Dieu qui avait donné. Pourquoi s'il avait donné à Salomon, il ne peut pas nous donner? Est-ce que Salomon avait demandé ça? Qui se souvient de la prière de Salomon? Salomon avait demandé l'argent. Il avait demandé la richesse. Mais aujourd'hui, on nous enseigne à demander l'argent et la richesse. Salomon avait demandé la sagesse, mais on lui a donné la richesse plus que tout le monde. Si nous voulons vraiment imiter Salomon, ce n'est pas en nous habillant ni en cherchant l'argent, c'est en demandant la sagesse alors. Imitons Salomon. Salomon avait demandé la sagesse, il n'avait pas demandé la richesse. Dieu, s'il a donné à quelqu'un qui n'a pas demandé, donc il peut donner encore à nous lorsque nous cherchons ce royaume. Mais lorsqu'on veut inverser les choses, nous sommes aveuglés, nos yeux sont crevés. Nous ne voyons pas la réalité. Est-ce qu'on ne remarque pas que les païens sont toujours plus riches que nous? Est-ce qu'on ne remarque pas ça? Que les gens qui font le mal sont toujours les plus riches? Et que la voie qu'on a prise de demander tout le temps au Seigneur l'argent, les choses de la terre, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne remarque pas ça? Malgré le fait que des gens comme les Benny Hinn, ils dorment dans des hôtels 5 étoiles, est-ce qu'ils ont l'argent plus que les Bill Gates? Pas du tout. Les gens qui ont vu regarder sur Internet, à la télé, là où monsieur du Paris Saint-Germain, là, il dort, Beckham, c'est combien? C'est 9 000 euros la nuit, je crois. 7 000 euros la nuit. 17 000 euros la nuit. Je crois que certains d'entre nous, s'ils dorment même dans un endroit où c'est 150 euros la nuit, c'est la fin du monde pour eux. Souvent, on est dans les Formule 1, avec la carte bancaire à l'entrée. Là. Mais c'est 17 000. Vous n'avez pas remarqué que malgré que vous demandez, ils vous dépassent toujours. Arrêtez de demander l'argent. Demandez la gloire de Dieu. Demandez le salut de l'humanité. Dieu nous donnera plus que tout ça. Ça, c'est rien. Mais faisons comme Salomon, demandons la sagesse, demandons la vérité. C'est la vérité qui sauve. Vous savez, autrefois on était embêtés. Il fallait toujours faire les choses grandes, louer des salles, faire des choses. Aujourd'hui, bien-aimés, on est libérés. Quand je vais en mission, on ne cherche pas des salles, on cherche les chrétiens, les humains, qui vont nous accueillir dans leur maison, nous prêchons dans leur maison. Et quelqu'un va aller dire, mais j'ai écouté quelque chose de vrai là-bas. Et la chose se répand tout seul. Par la puissance de Dieu, on n'a plus besoin d'argent pour louer des salles, pour faire des choses humaines, pour faire des propagandes. Mais c'est la gloire de Dieu qui fait la différence. Vous savez qu'est-ce qui est écrit ? Notre verset du jour, verset 22. Juges, Juges 15, 16, 22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Vous savez, même si on avait rasé toute la tête de Samson, on n'avait pas rasé l'Esprit Saint qui l'animait. L'Esprit était seulement parti. Mais il est écrit au verset 22, une note. Vous savez, quand Dieu promettait aux enfants d'Israël que je vais vous détruire, il y avait toujours une note qui mettait à la fin. Mais il y aura un reste que je vais ressusciter. Dieu faisait toujours une note. Et là, nous avons une note. Cependant, ses cheveux recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux et ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi aller afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tzoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Entre-temps, les cheveux repoussaient. Pendant que je vous décris cette église visible dans la défaite, les yeux crevés, les cheveux sont en train de repousser. Dieu est en train de préparer des gens de vérité. Pendant que, officiellement, on paraît démunis, sans moyens, ce sont les mauvaises églises, les faux serviteurs qui ont de gros bâtiments, qui ont beaucoup d'argent. Pendant que ça donne l'impression que la vérité ne paye pas, Dieu est en train de préparer. Les cheveux sont en train de repousser. Et nous serons surpris par la gloire de Dieu. Nous arrivons maintenant à la prophétie d'aujourd'hui. Dieu est en train de préparer les gens. Même si on a l'impression que rien ne s'est fait, on se trompe. Samson était les yeux crevés. Il commence à servir ses ennemis. C'est l'impression que nous avons aujourd'hui de l'église visible. Mais il y a aussi une église invisible, celle conduite par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont coupé les cheveux, mais ils n'ont pas coupé le principe qui produit les cheveux. Ce principe-là est dans le corps. Et le corps du Christ a un principe, c'est l'Esprit de Dieu. Il est en lui. Et cet esprit-là ne se reposera pas tant que la gloire de Dieu sera proclamée sur la terre. Et cet esprit est en action pour produire des vrais chrétiens que l'on ne voit pas parce que les cheveux sont encore courts en train de repousser. Mais cette église-là va servir pour bousculer la terre dans les prochains temps. Avant l'enlèvement, cette église va servir. Une fois pour toutes, la parabole des invités s'accomplira. On prendra les gens dans les rues. Les plus mauvais, les inconnus, c'est eux qui seront sauvés. Ceux qui sont dans l'amusement de fausses églises, ils pleureront ce jour-là. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 3. Ceux qui servent dans la synagogue de Satan viendront s'agenouiller. Ils reconnaîtront que c'est toi que j'ai choisi. Les vrais chrétiens semblent improductifs aujourd'hui. Ils sont comme Samson. Mais ils ont l'Esprit de Dieu. Samson semblait improductif, mais il avait la soif de servir son Dieu. Même si sa chair l'avait trahi, l'Esprit était bien disposé. Et à partir de là, Samson a dit, « Seigneur, les cheveux sont déjà là maintenant. Il ne reste plus que toi que tu agisses. Mon contrat, c'était les cheveux. Les cheveux ont repoussé. » Et maintenant, laisse-moi m'appuyer sur les colonnes. Bien-aimé, même si tu as l'impression d'être faible, tu manques de l'argent même. Ça veut dire des moments où on manque de l'argent rien que pour faire les tracts d'évangélisation. On se pose des questions, on dit, mais comment mais Seigneur, tu veux qu'on vole ou bien qu'on demande l'argent aux gens? On dit, non Seigneur, on ne demandera pas l'argent. Ou on te sert, ou on se sert. Si on te sert, c'est toi qui dois donner les moyens. On préfère la fournaise, mais on ne cédera pas. On veut faire des CD, entrer en studio, mais on ne peut pas, on n'a pas l'argent. Et on voit par-ci, par-là, de fausses choses passer. Parce que les gens demandent l'argent à gauche, à droite, ils ont l'argent. Et le diable dit, il faut céder, mon cher. Nous, on dit, on ne cédera pas. Psaume 137, c'est à Sion qu'on adorera l'Éternel. On refuse. Si c'est Dieu qu'on sert, il doit pouvoir au moyen. On refuse de faire des compromis. Et pendant ce temps-là, on se moque de nous. On dit, ben ça n'avance pas, ce n'est pas grave. Les cheveux commencent à repousser. Un jour, l'Esprit reviendra en action, d'une manière claire et puissante. Entre-temps, travaillons à ce que les cheveux repoussent. Sauvons même une seule personne, mais dans la vérité, ce sont les cheveux du Seigneur qui repoussent. Les cheveux de Samson qui repoussent. Même une personne dans la vérité, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est la vérité qui compte. Ce n'est pas le nombre, c'est la vérité. Dieu ne s'est pas arrêté d'agir. Il nous promet d'agir. Il nous promet d'agir. Mais soyons dans la vérité. Acceptons, comme le Seigneur Jésus a dit, de nous mettre à la dernière place. Acceptons qu'on se moque de nous. Acceptons. Il y a certains qui ont des talents. Acceptons que ces talents-là soient comme enterrés. Mais les cheveux sont en train de repousser. Mais qu'ils repoussent dans la vérité. Samson, quand il a vu les cheveux repousser, il a compris qu'il pouvait encore agir. Et nous, c'est ça qui doit être notre objectif maintenant. De revenir à la vérité. De sauver, de créer des chrétiens de vérité. Et un jour, l'Esprit les soufflera à nouveau. Et ça sera la collecte, ça sera la moisson. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous ne devons pas nous compromettre. Souvenons-nous, qu'est-ce qui a fait tomber Samson? C'était le pacte avec la chair. Ne faisons pas de pacte avec la chair. Notre chair est faible. Soyons honnêtes. Pour dire, ma chair est faible, mais je choisis la vérité. Dieu ne cherche pas des parfaits, mais il cherche des gens qui choisissent la vérité. Des gens qui vont lui dire, Dieu, je sais que ma chair est faible, elle est pourrie, mais moi j'ai choisi la vérité et je crois que ta puissance va faire la différence. Demandons au Seigneur la vérité. Persévérons. Dieu nous prépare à sauver plus de gens. Avant, il est écrit dans la Bible, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que Dieu va faire dans l'avenir sera plus grand que ce qu'il a fait dans le passé. Croyons et nous verrons cela s'accomplir. Mais ne nous laissons pas battre, n'entrons pas dans le compromis, ne pactisons pas avec la chair. Mais demeurons dans la parole, même s'il faut entrer dans la fournaise ardente, demeurons dans la parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à demeurer dans la parole, parce que les gens souffrent trop aujourd'hui. L'Église visible se compromise et les païens ne savent plus qui va les sauver. Alors que l'Église avait été envoyée pour combattre les œuvres des ténèbres, elle s'est mise au service des œuvres des ténèbres. Elle s'est mise au service des choses de la chair. Alors que l'Église a été envoyée pour combattre l'argent, elle s'est mise au service de l'argent. Alors que l'Église a été envoyée pour combattre l'injustice, elle cautionne l'injustice. Alors que l'Église a été envoyée pour manifester l'amour, mais les gens sont brimés dans les églises. Ils sont manipulés, brisés. Seigneur, nous voulons le véritable réveil qui vient de toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. C'est ce que nous venons te dire. Nous croyons que tu es Dieu, le Dieu de Samson. Alors que Samson semblait être fini, les yeux crevés, il nous a dit cependant ses cheveux repoussés. Alors qu'aujourd'hui, la vérité semble sous les pas de ceux qui sont dans le moment, sous les pieds de ceux qui sont dans le mensonge. Il nous est dit que les cheveux repoussaient. Il nous est dit aujourd'hui que la vraie Église n'est pas morte parce que le Saint-Esprit est vivant. Il suscite encore des serviteurs qui sont cachés. Et nous prions, Seigneur, pour la formation de ces serviteurs cachés. Nous prions que tu les formes dans la vérité, Seigneur, qu'ils soient prêts à l'action de l'Esprit sur cette humanité, au nom de Jésus-Christ. Merci de te manifester dans ta bonté, dans ta puissance, et de nous ramener à la sainteté totale, de nous ramener à t'appartenir et à vivre pour toi, au nom de Jésus-Christ.